Et je suis ici pour modérer cette table ronde. Donc c'est quasiment à peu de choses près le seul moment où vous allez entendre le doux son de la voix. À côté de moi se trouve Karine Gaudet, qui est co-auteur elle aussi du Guide de l'Uchronie. La politesse m'oblige à dire que c'est elle qui en a écrit la plus grande partie, je me suis contenté de rajouter le nom sur la couverture. Elle est ici sous le pseudonyme de Lisbeth, comme blogueuse. Elle s'occupe du RSF Blog, qui référence donc tout ce qui est œuvre de SF. C'est une grande passionnée de space opéra et autres. Nous avons réussi à la corrompre petit à petit et à l'amener froidement finalement sur les terres uchroniques. Et elle est également, elle aussi, membre du prix actuel SF de l'Uchronie. À côté de moi, l'homme aux mille vies, ses cheveux blancs courts, Richard Benalan, scénariste de BD, romancier, passionné des opérismes. On va éviter de parler des acquaintances finalement avec le sujet dont nous allons parler là.
Oui, parce que
c'est quand même un peu le but de cette table ronde. Ouais. Et à côté, Stéphane Przybylski, ça s'écrit comme ça se prononce, auteur du Château des millions d'années. Donc si je ne dis pas bêtise, ça va être une série en 5 tomes, dont 2 viennent de paraître aux éditions de Belgal, où tu revisites, on va dire, la Seconde Guerre mondiale sous un angle particulier.
4 tomes.
Ah, 4 tomes. Oui. Salut, on avait vendu un 5e. Il y aura des illustrations dans le 5e. Alors, pour commencer, je vais m'adresser à ma charmante co-auteur en lui posant donc la première question, qui tournera autour du, justement, la Seconde Guerre mondiale et l'Uchronie. Peux-tu, Karine, nous parler un peu, j'irais, de cette thématique et nous expliquer pourquoi, pour toi, celle-ci connaît autant de succès.
Alors, moi j'ai développé une théorie qui est une théorie très très élaborée. La Seconde Guerre mondiale, c'est relativement facile d'avoir le point de repère. Pour caractériser une chronie, pour avoir une bonne chronie, il faut quand même avoir des points de repère historiques. L'avantage de la Seconde Guerre mondiale, c'est que c'est encore très récent, c'est quelque chose qu'on travaille encore beaucoup, c'est quelque chose qui, pour lequel les archives secrètes sont encore en cours d'ouverture, etc. Donc on récupère de plus en plus de matière. Et puis c'est quelque chose qui est tellement marquant dans l'histoire du monde, l'histoire récente, que tout le monde a encore en tête les grandes étapes de cette guerre et ce qui permet de faire des uchronies relativement facilement accessibles à tous les publics. Et de faire preuve aussi de pédagogie. Il y a un autre aspect aussi moi, qui me fait dire que cette période est une période très à la mode, c'est que c'est une période qui fascine. L'horreur fascine. Ça, c'est automatique. Vous avez des tueurs en série, tout le monde se souvient encore de Jack l'Éventreur, mais si personne ne sait que c'était Jack l'Éventreur, on se souvient de ce qu'il a pu faire dans le quartier de Whitechapel, de toutes ces morts de prostituées. On a des séries télévisées sur les tueurs en série. L'horreur fascine. Or, l'Holocauste, la Seconde Guerre mondiale, l'industrialisation de la mort, les camps de la mort, c'est quelque chose qui est à la fois absolument terriblement rebutant, mais aussi fascinant parce qu'on n'arrive pas à comprendre. On ne comprend pas comment on a pu en arriver là, comment on a pu laisser faire ça, et comment on a pu avoir un process aussi industrialisé de la mort. Et je pense que ça, c'est aussi cette fascination qui fait qu'on a énormément d'uchronie sur cette période-là. Parce que l'uchronie est aussi un outil qui cherche à comprendre, et on essaye de comprendre ce qui s'est passé et comprendre comment nous avons pu fonctionner et comment l'homme, l'être humain, a pu tolérer et laisser faire ça, voire même avoir été membre actif de cet holocauste géant.
Alors si je ne dis pas de bêtises, au niveau de la production justement chronique, la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu ce fait de la part de l'Union, c'est la moitié, si ce n'est les trois quarts justement des uchronies existantes. Tous pays confondus quasiment.
C'est la grande thématique. Alors, l'avantage, c'est que c'est une période assez large. Et puis, on peut prendre différents angles de vue aussi. On peut se concentrer sur l'Uchronie autour d'une bataille qui ne se serait pas. Enfin, vers la guerre continue, 1940, la guerre continue. On peut se tourner vers les armes secrètes et donc elles font basculer le cours de la guerre. On peut se tourner aussi vers d'autres pays. On peut se dire, tiens, on ne va pas parler d'Allemagne, on va peut-être parler du Japon. Donc on a l'avantage, c'est que c'est une période assez large et mondiale, on peut prendre différents points, ce qui donne toujours de l'originalité aux uchronies. Mais effectivement, c'est la grosse partie des uchronies qui sont publiées tournent autour de ça. que je reprends récemment, on a Jo Walton, son trilogie aux éditions de Noël de Dante. Elle parle de l'Angleterre qui bascule sur le chemin du nazisme. Donc on est avant la Seconde Guerre mondiale, on a après la Seconde Guerre mondiale, mais on en arrive là aussi. C'est une autre clé d'entrée. Mais effectivement, c'est la période qui est la plus couverte à l'heure actuelle.
Alors, partant du principe que nous avons traité du chronique, je souhaiterais justement poser une question à Stéphane Przybylski. Ton œuvre, Le Château des Millions d'années, donc les deux tomes, pour l'instant, on peut la qualifier d'histoire secrète. Est-ce que tu acceptes justement d'expliquer au public la différence pour toi entre une chronique et une histoire secrète ?
Oui, alors, que ce soit pour Le Château des Millions d'années, donc, ou le Marteau de Thor, ensuite, c'est l'idée à chaque fois, c'est de m'appuyer sur une notion donc, d'histoire secrète, de zone d'ombre, justement, qui s'attache à la Seconde Guerre mondiale. Des zones d'ombre dont on a déjà un petit peu parlé, c'est-à-dire de se demander si les versions qu'on possède à l'heure actuelle de certains événements de la Seconde Guerre mondiale sont bien les bonnes. Je pense à un événement en particulier qui va servir un peu de fil conducteur dans mon travail, c'est l'histoire de Rudolf Hess, donc le dauphin de Hitler, un des premiers membres du parti nazi, qui va donc partir pour l'Angleterre, enfin pour Glasgow, donc en Écosse, en 1941. Il va se faire donc capturer par les Anglais et il sera jugé à Nuremberg et condamné à la prison à perpétuité. Ça, c'est la version officielle, avec depuis des théories qui ont été échafaudées autour de ce départ en Angleterre, avec ce qui lui est arrivé là-bas et ensuite et les raisons en fait de son départ. Et on a un peu, je dirais, balayé tout un spectre depuis cette époque. En 1941, quand Hitler a appris en fait que Hess partait pour l'Angleterre, il l'a déclaré fou. Les Anglais, dans un premier temps, l'ont déclaré eux aussi fou, pour ensuite revenir sur leur décision pour pouvoir le déclarer sain d'esprit, donc en 1945, et le juger à Nuremberg pendant donc le procès des criminels de guerre nazie. Donc on l'a à nouveau donc déclaré saint d'esprit, puis ensuite enfermé donc à la prison de Spandau à Berlin, où il est resté, je dirais, au secret jusqu'à sa mort. Ce qui est en soi déjà relativement mystérieux, puisque ensuite on a continué à le suivre de façon assez poussée d'un point de vue psychiatrique, en considérant que le monsieur était peut-être pas très sain d'esprit. Néanmoins, on a considéré, les services secrets ont considéré que jusqu'à sa mort, il ne pouvait pas parler à aucun moment à sa famille d'histoire, de politique ou de Seconde Guerre mondiale, ce qui en soi est déjà une zone d'ombre assez particulière. Des historiens se sont penchés sur la question au début des années 2000, parce que justement il y avait une idée de déclassification des archives, ce madame en parlait, et c'est vrai qu'on commence à déclassifier ce type de documents. Manque de peau pour l'historien en question, c'était Martin Allen. Martin Allen sort des documents anglais donc déclassifiés, il commence à échafauder une théorie sur les motifs qui poussaient Hess donc à aller en Angleterre en 1941. Et manque de peau, ces documents se sont avérés être faux, en fait. Et moi, c'est ce que j'adore dans les zones d'ombre de l'époque, c'est-à-dire pourquoi fabriquer de tels faux pour piéger un historien dans les années 2000. C'est ça ma question, et c'est un peu à chaque fois dans mon travail de roman, ce que je fais sur les différents aspects de la question, c'est-à-dire poser des questions et dire, ben voilà, pourquoi on cherche encore aujourd'hui à occulter certains aspects de cette histoire, la fameuse donc histoire secrète. Et donc la vérité n'est peut-être pas celle...
La vérité est ailleurs.
Elle est ailleurs, tout à fait.
Alors, pour aider notre public à se resituer un peu par rapport à cet événement, Rudolf Hess, qui effectivement était le dauphin, donc le numéro 2 du régime d'Adolf Hitler, serait parti en 1941 dans son avion personnel en direction de l'Angleterre pour essayer de négocier une paix séparée, voilà, avec les Anglais. Là où ça devient compliqué, c'est que son appareil aurait été pris en chasse par des agents de la Luftwaffe qui auraient tenté de l'abattre pour éviter qu'il arrive en Angleterre, qu'il aurait été récupéré par un réseau d'Anglais nazis qui aurait tenté de le présenter finalement. Lui, son truc, c'était d'être présenté à des hommes qui devaient être suffisamment influents pour permettre à l'Angleterre de signer une paix séparée, et à partir de là, capturer, emprisonner, et ainsi de suite.
Vérité qui gêne les Anglais encore aujourd'hui, parce que à l'époque, l'Allemagne, elle est en guerre avec l'Angleterre et uniquement avec l'Angleterre. Et la théorie de Martin Allen, notamment, c'est de dire les Anglais ont fait ça, ils ont essayé de laisser penser à Hitler qu'ils allaient pouvoir éventuellement faire la paix avec lui pour le tourner contre l'Union soviétique et le pousser à attaquer Staline. Il faut savoir que derrière tout ça, il y a quand même 30 millions de morts russes. Forcément, encore aujourd'hui, révéler une telle manipulation, ça pourrait un peu nuire aux relations entre l'Angleterre et la Russie encore aujourd'hui. Et c'est une des raisons qui font que la théorie de Allen, elle est effectivement remise en question. Et on se demande encore si ce qu'on est en train de raconter, c'est vrai ou pas. Est-ce qu'il y a une part de vérité? Est-ce que c'est toute la vérité? Est-ce que la vérité, elle est différente? Entre guillemets, on n'en sait encore pour le moment vraiment rien. Enfin,
affaire à suivre.
Affaire à suivre, oui, tout à fait.
Alors, j'ai rebondir sur un des aspects de ton roman, c'est que les héros que l'on suit sont tous plus ou moins impliqués, justement, au niveau de l'ordre SS. Oui. Que ce soit la branche guerrière ou la branche administrative. Peu de gens le savent, mais il y a effectivement une branche guerrière, la Waffen-SS,
oui.
Et derrière, il y a l'Allgemeine-SS qui regroupait finalement tous les services administratifs, où même on pouvait recevoir un grade, pour ainsi dire, dit d'honneur, pour entrer dans la SS. Ça, c'est une branche qu'on a tendance à oublier par rapport au reste. Toi, l'un des tours de force de ton bouquin, c'est justement mettre en scène un héros qui est SS et qui commence à exprimer des doutes par rapport à la légitimité du régime, est-ce que celui-ci va réellement amener à l'Allemagne? Et ça me permet du coup de rebondir sur Richard Benolan, qui, à travers son œuvre, joue justement sur plusieurs tableaux. Tout d'abord, tu mets en scène les SS, tu mets en scène finalement l'une des théories de la fin de la guerre qui voulait que Himmler mette en scène des escadrilles d'aviation dirigées finalement par des troupes SS, et tu joues également sur la fameuse théorie des Wunderwaffen, les fameuses armes miracles qui devaient justement changer le cours de la guerre, alors que tout était définitivement perdu en 1944.
Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que dans Wunderwaffen, tout n'est pas perdu en 1944, puisque c'est une uchronie, mais qui a commencé déjà, on le sent bien, au tout début des années 40. Il y a des problèmes sur le front de l'Est. Le maréchal Zhukov meurt avec son état-major dans un truc totalement inexpliqué. Je vais garder inexpliqué parce que j'ai plusieurs solutions là-dessus, suivant l'histoire, suivant celle qu'il faut utiliser. Donc déjà, ça enlève le stratège numéro 1 de l'armée rouge. Et puis, ce qui se passe, c'est que la bataille de Stalingrad, contrairement à ce qui s'est déroulé dans notre réalité, l'armée de von Paulus réussit à s'échapper. Ils perdent Stalingrad, mais ils ne sont pas repris. Donc il y a des tas de choses qui ont changé sur le front de l'Est, qui est bloqué. Et en 1944, le 6 juin 1944, le débarquement rate. Alors pour des raisons, comme c'est une uchronie, je fais une... Rommel est toujours là, Rommel supervise les défenses. Les services de renseignement ont plus de renseignements, puis surtout, c'est que, donc il y a le débarquement, mais il y a quelque chose qui intervient pendant le débarquement, qui fait que les Alliés perdent, mais que les Allemands ne comprennent pas. En fait, les Allemands ont eu un allié, littéralement tombé du ciel, ils ne savent pas ce que c'est, et qui fait que le débarquement rate. Donc on a une situation figée, tout le monde est sur le fil rouge, quoi. Les Allemands, ils n'ont pas gagné la guerre, ils sont juste, tout est bloqué. Et à la suite de l'échec du débarquement de 1944, en fait, ce qui se passe, c'est que la propagande allemande et plus une réorganisation dans le ministère de l'armement fait que les Wunderwaffen, qui étaient un élément de propagande de Goebbels, au lieu d'être faites par-ci, par-là, telle usine faisait les siennes, c'était un peu le bazar dans notre réalité, là, c'est d'un coup tout regroupé. Et c'est pris en main par le ministère d'Albert Speer. Et donc les Wunderwaffen deviennent vraiment un truc qu'on démultiplie, qu'on met au point. et ça permet aux Allemands d'arrêter en grande partie les bombardements sur l'Allemagne et surtout de maintenir tout d'un coup de maintenir les frontières, quoi. Que ce soit contre les Russes, les Américains, en Italie. Et là-dessus va se greffer une histoire qui joue sur une autre fascination, à mon avis, pour les gens, pour tout ce qui tourne autour des nazis. C'est la partie un peu occulte. Et il y avait un service de la SS qui s'appelait l'Annenerbe, qui depuis 1935 mélangeait des fous furieux avec d'authentiques savants, mais toujours dans une perspective d'aller prouver que les nazis, les Allemands descendaient d'une race supérieure, des Atlantes. Et puis il y avait toute une partie un peu occulte qui là se développe, puisque ça fait partie aussi du nouveau système de défense. Au départ, ça devient un mélange de... Moi, j'ai surtout centré sur les armes volantes, parce qu'au départ, c'était une série d'aviation. Se rajoute aussi tout un aspect occulte de recherche de super-pouvoirs, soi-disant, venus de l'ancienne race des Atlantes, si vous voulez. C'est une série où mes héros ne sont pas tous des SS, non, c'est des Allemands. Alors en fait, il y a de tout. Il y a des gens qui sont vraiment des fous furieux, le pire étant finalement Himmler, qui manipule Hitler en fort du terme. Et puis il y a des gens comme ça qui sont entre les deux, qui hésitent, qui sont contre, mais qui ne peuvent pas se montrer. En fait, c'est pas là, je le prends. C'est une histoire qu'il fallait voir du point de vue allemand, parce que bien que autour, on voit passer régulièrement De Gaulle, Jacques Bergier, Churchill, Truman. Enfin, il y a quand même en face, il y a des gens comme ça, mais ils sont contrairement à une autre série que je fais qui s'appelle Space Reich, où là, c'est les deux côtés qui avancent en même temps. Où la partie des alliés, enfin, si on peut dire, dans cet autre univers, est beaucoup plus présente. Mais là, je voulais faire une histoire qui se passe plus du côté des Allemands. Comme on en a lu, on a lu plein de livres sur la guerre qui étaient vus de ce côté-là. Paul.
Alors, une chose qui est intéressante, justement, avec vous deux, c'est le côté, et ensuite j'aurai une question là-dessus à poser à Karine, c'est que vous vous intéressez justement, je dirais, à une histoire quelque peu surnaturelle. En mettant en scène, effectivement, tous les deux, des technologies extraterrestres, voire même des extraterrestres. Ça se voit au niveau du château des millions d'années, qui à l'origine, c'est effectivement une expédition de l'Annenerbe qui est chargée d'aller récupérer quelque chose là-bas et qui va changer finalement la vision des choses du héros. Et toi, de ton côté, effectivement, le 6 juin 44 échoue, mais à l'origine, personne ne sait pourquoi. C'est un peu comme si la nature décidait de s'en mêler. Et du coup, tu as une espèce, dans mes souvenirs, d'énorme orage magnétique qui va détruire finalement une bonne partie de la flotte de débarquement, mais aussi s'attaquer aux défenses allemandes, sans qu'on puisse,
Les Allemands voient bien que c'est de leur côté, puis que ça a un peu tapé à côté dans leur propre défense, mais il y a quelque chose qui est intervenu en leur faveur, et ils ne voient pas ce que c'est. Ils ont gagné sans savoir pourquoi.
Alors, de votre côté, je dirais justement, qu'est-ce qui vous a fasciné par rapport à ce côté surnaturel? Pourquoi ce côté surnaturel? Et aussi, il y a eu tout un tas de théories, par exemple, qui viennent d'être reprises dans la dernière BD de Lefranc, Mission Antarctique, où on repart justement de vieilles théories du ufologue. Des années 70, on était persuadé que derrière le programme des armes secrètes, il y avait aussi un programme de secoues volantes. Donc, je dirais, de votre côté, l'un qui travaille sur les questions depuis des lustres, et toi, finalement, tu as vraiment le pendant, je dirais, purement extraterrestre, avec une race qui débarque, qui considère que notre planète, entre guillemets, c'est le prochain Eden à conquérir.
Il y a déjà un aspect tout bêtement factuel, c'est de dire, par exemple, que la nouvelle génération de bombardiers furtifs américains, par exemple, dans le design, elle ressemble, elle s'apparente à ce qui a pu être développé en termes d'engins volants par des designers allemands, notamment les frères Orfen, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est d'autant plus vrai que les Américains se sont appropriés les plans et je dirais même aussi, je crois, un des deux frères pour le faire travailler chez eux.
Ils ont même fait voler un des prototypes. Et dans mes souvenirs, le pilote a déclaré que c'était un fer à repasser. Il y avait énormément de mal à virer pour pouvoir l'amener où que ce soit.
Voilà. Et donc, tout ça, le programme des fusées, le programme Apollo avec Werner von Braun qui part donc travailler pour la NASA et qui est d'abord un officier de la SS qui travaille dans l'usine, enfin qui fait tourner l'usine de Peenemünde, donc où on fabrique les fameux V1 et V2, donc les armes de vengeance allemande, avec des ouvriers condamnés, prisonniers et contus à la tâche. Enfin, ce sont des espèces de l'histoire secrète, encore une fois.
C'était de montrer que derrière l'histoire officielle, c'était pas joli joli.
Tout à fait. Et de dire par exemple que Werner von Braun, il faut savoir que par exemple c'est quelqu'un qui, en tant que patron du programme Apollo et un des principaux patrons de la NASA, a quand même fait des films pour Disney. Par exemple, il a fait des films, des reportages où il expliquait aux petits-enfants du monde entier comment on envoyait un homme dans l'espace et un homme sur la Lune. Il faut quand même savoir que ce monsieur, il a porté un uniforme noir avec des insignes pas très sympathiques. Pardon ?
Tu connais la fameuse blague lorsqu'on a procédé au premier tir de V2 qui a fonctionné, tout le monde s'est félicité sur la guerre. Le général est tombé dans les bras de von Braun en disant « Nous avons gagné la guerre ». Et la réponse sarcastique de von Braun, « Je m'en fous de gagner la guerre, parce que je veux c'est envoyer un homme sur la Lune ».
Absolument. C'est pas le flag. Il le pensait vraiment. Mm-hmm. Et pour l'histoire, c'était un SS, de la SS générale, la Allemagne SS, qui était... Pour avoir certains postes, on était obligé d'avoir d'endosser l'uniforme, mais c'était un truc complètement administratif.
Tout à fait.
Pour la NRB, par exemple, Otto Hahn, pour prendre quelqu'un de la NRB qui était connu dans le sud de la France, a dû devenir lieutenant de la SS parce que sinon il ne rentrait pas à la NRB.
Pour les gens qui ne voient pas, Otto Hahn, c'était les fameux programmes où on a tenté de chercher la lance qui allait percer le flanc du Christ parce qu'elle était
à Montségur avec le Graal.
C'est ça, il y a eu la. Ça se voit un peu dans les Indiana Jones et autres. C'est des programmes tous plus farfelus les uns que les autres. Je crois qu'ils ont cherché l'entrée de la Terre Creuse pour pouvoir voir s'il n'y avait pas moyen d'aller voir en dessous. Avoir des alliances avec des entités supraterrestres qui nous gouvernaient, etc., etc. Tout ça pour montrer que finalement, le niveau de barjoterie nazie était quand même assez avancé sur certaines choses. Alors, une question à Karine. Là, pour l'instant, effectivement, t'as très justement signalé qu'au début, l'Uchronie, c'était quelque chose de très technique. Ça pouvait être aussi bien, on change une bataille, qui permet de changer le cours de la guerre, on revisite l'histoire. Et ce qui est assez intéressant, finalement, avec les deux auteurs qu'on a à côté de nous, c'est que petit à petit, là, généralement, on assiste à un nouveau pendant. Alors, tu vas peut-être pouvoir me dire si c'est le cas. Mais pour moi, maintenant, on bascule de plus en plus dans une uchronie, je dirais, la dominante fantastique. Il n'y a plus réellement... La dominante historique est en train, petit à petit, je dirais pas de perdre le pas, mais de cheminer côté à côté avec une histoire où on peut mélanger des extraterrestres, où on peut mélanger des dragons, et ainsi de suite.
On perd le réalisme historique et la crise, enfin, je ne vais pas dire la crédibilité, mais à partir du moment où on fait une uchronie, c'est très difficile. Quand on est proche du point de divergence, c'est le point qui change les choses. C'est relativement facile de réécrire toute l'histoire qui va en découler. Et plus on s'éloigne de ce point de divergence, plus c'est compliqué de tenir une cohérence de l'univers concret. L'avantage de s'éloigner des codes historiques et de la plausibilité de l'histoire, c'est qui en fait rentrer de l'ésotérisme, du fantastique, ou des extraterrestres, ou de la science-fiction, c'est qu'on peut s'affranchir vraiment de la réalité et de cette obligation d'être réaliste. Et on peut se concentrer sur un ou deux points qu'on souhaite approfondir. Si on reprend les armes secrètes, on peut se dire, tiens, je vais les développer de manière à leur faire jouer un rôle qu'elles n'auront de toute façon jamais joué. Et on s'éloigne vraiment de la plausibilité pour creuser une piste et creuser son propre sillon. Donc effectivement, oui, on perd en histoire. pour de l'Uchronie. Après, je pense que dans le chapitre des millions d'années et le marteau de temps, on est quand même plus proche de l'histoire telle qu'elle a été. On va juste remplir des blancs qui n'existent pas. Moi, ça me fait penser à toute autre chose. Le roi d'août de Michel Paget n'est absolument pas une uchronie. C'est du fantastique. C'est l'envers de l'histoire, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'histoire officielle, puis derrière, les causes de cette histoire sont vues sous l'angle fantastique. Donc, on va se retrouver avec des créatures fantastiques, des damnéas, des choses comme ça, qui viennent interférer, mais qui ne changent pas le cours de l'histoire telle qu'on l'a connue. Et l'avantage d'aller dans les trous, c'est qu'on peut faire preuve d'inventivité, et c'est qu'on peut aussi s'amuser vraiment avec l'histoire sans la changer et sans en changer le trou.
Oui, c'est effectivement l'idée, c'est d'aller d'une part du côté d'Indiana Jones pour mettre en scène donc d'abord des archéologues nazis, effectivement complètement férus d'ésotérisme et effectivement des gens.
Dans les souvenirs, il y a même eu des expéditions, parce qu'ils étaient persuadés de trouver le Saint Graal chez les cathares.
Oui, tout à fait.
C'est
Hellboy
est aussi la création de l'ésotérisme nazi. Hein.
Voilà. Et donc là, en l'occurrence, moi, c'est l'Irak en 1939. Mais l'autre versant, et un versant là aussi qui est complètement historique, c'est que dans ces expéditions, donc dans les années 1930, qui se sont, par exemple, aventurées du côté de l'Irak, il faut savoir aussi qu'il y avait une volonté politique et une volonté au niveau du renseignement militaire de s'allier avec les populations locales pour chasser les Anglais et les Français du secteur. Donc il y a quand même un mélange des deux qui est assez intéressant, parce que, et c'est ce que j'essaie aussi de souligner, c'est-à-dire que oui, effectivement, il y avait des gens avec des théories farfelues, des théories de l'évolution qui étaient relativement farfelues et qui partaient dans ce secteur-là, mais il y avait aussi une vraie idée de manipuler les populations. Ça a été tellement fort, par exemple, en Irak, qu'il y a eu un coup d'État pro-nazi en 1941, qui a duré quelques semaines, mais où donc les Irakiens ont réellement tenté de s'allier avec l'Axe et de chasser les Britanniques du secteur, ce qui aurait pu, vous l'imaginez, avoir de sérieuses conséquences au niveau notamment du contrôle des champs pétrolifères irakiens. Donc, il y a quand même, il faut donc savoir, par exemple, que ce coup d'État, ces accords, ils ont été passés au départ parce que des archéologues de la Minerve, notamment en 1939, étaient venus sur place et avaient donc, la façade, c'était on cherche les origines de la prétendue race aryenne, de la prétendue race supérieure qui gouvernait le monde il y a des milliers d'années. Mais derrière, il y avait aussi la volonté très, très sérieuse et très pragmatique de préparer la future guerre qui s'annonçait à ce moment-là.
Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est de balayer rapidement justement certains des points de divergence qui ont plus d'attrait, et surtout ceux qui en ont moins, par rapport à la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai qu'on y regarde, il y a des points de divergence auxquels on ne songe pas forcément. Par exemple, 1918, défaite de la France et de l'Angleterre, qui amène finalement l'un ou l'autre, si ce n'est pas les deux, à devenir nazi par rapport à une Allemagne qui, elle, reste impériale, et j'allais dire, reste tranquillement dans son coin, à gérer la chose. Ça a été traité par Ian R. MacLeod dans Le Soleil du Soleil. L'Angleterre perd la Première Guerre mondiale en 1918 et bascule petit à petit dans le fascisme. C'est un bouquin qui s'illumine dans les années 30. Et en fait, on montre très très bien justement à quel point gérer le nazisme est une idée qui pouvait s'installer uniquement dans une nation vaincue, où on va se réfugier dans une espèce de folklore, du mythe du chef. On tombe sur l'équivalent des SS qui deviennent les chevaliers de Saint-Georges, et on retombe sur la même chose, c'est-à-dire la chasse aux dégénérés, aux homosexuels, l'antisémitisme qui était quand même sacrément bien installé et développé dans les années 20-30, et surtout la crise économique qui amène à basculer de plus en plus dans des idéaux, j'allais dire mortifères. Par exemple, dans le cas du livre de Diana MacLeod, les camps existent. On les bascule sur les îles anglo-normandes ou au fin fond de Champagne.
Oui, je rejoins l'idée complètement. Oui, parce que finalement, la défaite de 18, c'est un peu aux yeux de beaucoup d'Européens, c'est
la fin de toute chose.
Oui, voilà, c'est la faillite de beaucoup de choses. C'est-à-dire que pour beaucoup d'Européens, quel que soit le pays, c'est d'abord la faillite du système industriel. C'est-à-dire que qu'a donné l'industrie ? L'industrie, donc, née de la révolution industrielle au XIXe siècle, qu'est-ce que ça a provoqué ? Pour certains Européens, ça a provoqué une hécatombe, une destruction de masse de vie humaine sur des champs de bataille. Et les Européens qui vont rejeter ce modèle et se tourner vers un modèle plus proche de la nature. Et ça fait partie notamment du courant nazi. Albert Speer était comme ça. C'était quelqu'un qui adorait vivre dans les bois et aller faire, entre guillemets, du camping sauvage. Hein, pour peu, ça a l'air très sympathique dit comme ça. Mais il faut voir que chez eux, il y avait cette vision que, effectivement, le capitalisme avait engendré une industrie qui était mauvaise, parce qu'elle faisait du mal à l'homme. Ce qui est
très avant-gardiste.
Oui, voilà. Quand on voit ce que ça a donné derrière, c'est-à-dire créer une industrie de la mort industrielle, on voit qu'ils ont en fait retourné le système qu'ils voulaient corrompre pour en utiliser ce qui pouvait leur être utile à eux pour supprimer.
C'est très bien montré dans le film Alien de Costa Gavras, le côté industriel de la chose, où à un moment, l'Inde, on suit notamment le concepteur des chambres à gaz, et qui à un moment devient tellement effrayé par les mises à mort, qui se pointe lors d'une réunion, on tombe sur une réunion avec tous les cadres SS qui gèrent leur camp, on dit que je ne peux pas vous impressionner en gaz. Et là, tout le monde explose, et la séquence est assez hallucinante, parce que les seules phrases qui sortent finalement, c'est « je ne vais pas atteindre mes objectifs, je ne vais pas, entre guillemets, faire tant d'éléments par mois, alors que moi, vous comprenez, j'ai un quota à atteindre, ainsi de suite ». Donc c'est assez effroyable.
Les SS rejettent en masse le capitalisme, l'industrialisation excessive de la société, et ils prônent le retour à un ordre de chevalerie proche des chevaliers teutoniques. Ils rêvent d'une société qui redeviendrait moyenâgeuse.
Des chevaliers paysans. Des légionnaires romains s'installant.
Tout à fait. Et il faut bien voir que, ce faisant, ils vont quand même utiliser toutes les ressources du capitalisme, de l'administration et de l'industrie pour arriver à leur fin. Et c'est très comparable avec ce que fait par exemple l'État islamique aujourd'hui, qui rejette complètement des modèles de vie occidentaux, mais qui n'a aucun problème pour aller sur Internet, pour utiliser des téléphones portables, pour utiliser la vidéo, pour utiliser les moyens de communication ultra modernes et les médias. C'est la même stratégie, c'est exactement la même stratégie. On est contre vous, mais on n'a rien contre utiliser certains de vos outils pour pouvoir vous combattre. Voilà,
Alors, un élément aussi qui commence à connaître un certain succès, ça on l'avait découvert avec Karine, c'est 1917. Lénine n'arrive pas en Russie, le train déraille, ou Lénine décide de rester en Suisse, ou décide de former une république soviétique ailleurs, ou ainsi de suite, ou voire même. Coup d'État, certes, en Russie, mais c'est une démocratie qui s'installe. Kerensky réussit à négocier finalement un virage vers une Russie démocrate. Maintenant, quant à savoir si celle-ci serait capable justement de supporter le choc d'une attaque nazie, la question se pose encore, donc personne ne l'a traité. Mais ça, on s'est aperçu petit à petit ces derniers temps qu'on avait des œuvres justement qui s'emparaient de plus en plus de ce point de divergence qu'on a tendance à oublier. À savoir aussi, pour une petite histoire, le renvoi de Lénine en Russie, ça a été un coup, pour ainsi dire, fait par les services secrets allemands pour pouvoir justement faire basculer définitivement la Russie hors de la guerre. Donc il y avait une opération, pour ainsi dire, d'intoxication menée sur le long terme. Un truc très peu têté, mais on le voit dans une BD.
Dans quel livre on trouve cette idée de...
Alors vous savez, Il est midi dans le siècle, qui est sorti aux éditions de minuit, qui imagine en fait que le train déraille et que Lénine et la totalité, entre guillemets, de sa suite, y passe. Et ensuite, on tombe sur une histoire complètement différente. Il y a une petite nouvelle, mais qui est un peu plus dure à trouver, l'Historionaute, en fait, où
les États-Unis et la Russie sont en guerre temporelle pour essayer d'effacer l'existence de l'autre. Et au final, les Américains réussissent à gagner en justement remontant dans le temps et en empêchant Lénine d'arriver en Russie à ce moment-là. Et la fin est relativement savoureuse. Mais c'est un truc qu'on s'est aperçu, je crois qu'il y a 2-3 bouquins qui partent sur cette thématique ces derniers temps.
Oui, c'est juste parce que ça nous avait surpris d'aborder le Vengeur mondial par cet angle-là, en fait. On avait déjà des économies où Hitler ne venait pas Hitler, c'est rentré à l'école des Beaux-Arts de Vienne, mais on n'avait pas ce point.
C'est ça.
Mais donc on n'avait pas encore ce type de texte.
Excusez-moi, dans vos thèses, vous parlez d'un certain rejet de l'industrialisation par l'Allemagne nazie, mais c'était bien le cas de la France, comme vous disiez, par Javel, Ruggiero, quoi.
Si j'étais en forme, je dirais que c'était même un des éléments essentiels du péténisme.
Oui, tout à fait.
C'était un courant européen.
Ouais, voilà, c'est un courant européen.
Alors que la classe ouvrière, à l'époque, il y a eu le Front populaire avec ses acquis, pour les congés payés, enfin, revendiquaient des congés. Un certain nombre d'heures de travail. Pendant ce temps, les ouvriers allemands faisaient des heures supplémentaires pour produire des chars.
Dire
qu'il y a eu un rejet de l'industrialisation par l'Allemagne, je ne sais pas trop. D'ailleurs, les grands patrons allemands de l'époque étaient...
C'est pas les mêmes. C'est dans l'imagerie, dans la propagande, ce rejet.
Dans la réalité, le Front populaire a été le premier à mettre en place une politique de nationalisation pour ce qui est de la création des armes de guerre. Ce que les autres gouvernements successifs de droite n'avaient jamais fait. Alors oui, effectivement, il y a eu des revendications des ouvriers pour travailler un certain nombre d'heures, pour avoir droit au week-end, pour avoir droit au congé payé. Mais j'allais dire aussi paradoxal que si ça ne puisse pas être, si la gauche n'avait pas fait passer certains programmes, en 40, c'est pas en quelques semaines qu'on a fini la guerre, c'est en quelques jours.
Et Himmler... dans les années 20, il est éleveur de poulets. Et il a une idée de ferme modèle qui copie beaucoup d'usages du Moyen-Âge. Il y a dans l'est de la France, en fait, dans le secteur donc, Moselle et Alsace, qui va donc être réannexé de 1940 à 1944, on a ces fermes modèles-là donc, qui sont construites selon un principe nazi. Avec une vraie idéologie derrière, hein, donc comment on va dire ça, le fermier colon romain et le fermier colon du Moyen-Âge, c'est-à-dire on prend un Allemand, on lui dit tiens tu vas aller, on va te donner des terres en Moselle, là on va te construire une ferme pour toi, et en fait tu vas, tout le secteur qui est autour de toi, tu vas l'administrer comme tu l'entends, hein. C'est ce qu'on faisait avec les vétérans des légions.
La mort est mon métier de Bernard, le futur patron en fait, du camp de concentration d'Auschwitz, vétéran, si je n'ai pas de bêtises, de 14-18, a fait partie justement des fameux programmes où ils tentaient de s'approprier les coins, tu sais, où ils vidaient les marais, on les dessalait, et on leur disait vous girez les fermes, et ainsi de suite.
Donc si vous voulez, vous avez derrière ça une idée de retour en arrière. Une idée complètement passéiste de retour en arrière. L'humanité, elle maintenant, c'est un seigneur hein, qui gère sa terre autour de lui. C'est l'idée, et on lui fait même sa ferme. Cependant, les fermes en question, elles sont totalement standardisées d'un point de vue industriel. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, il y a la conjonction des deux concepts. C'est-à-dire que d'un côté, on veut revenir au Moyen-Âge, mais d'un autre côté, on va préfabriquer des éléments, standardiser la construction, et on a en Moselle des fermes qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et j'ai un ami qui est photographe qui a tout répertorié pour le département, où on sait exactement comment dire, le modèle de la famille. C'est-à-dire qu'ils faisaient ça, on vous inscrivait, hein, le colon allemand qui devait venir, on lui disait « t'as combien d'enfants ?»« Ben, j'ai 3 enfants. »« Bon, ok, c'est le modèle T3. » trois chambres plus la cuisine.
C'est préfiguré,
les pavés
préfabriqués des années 60.
Complètement. Quoi. Donc effectivement, c'est pas une contradiction en soi que de dire que ces gens très passéistes aient pu en même temps être presque des avant-gardistes du point de vue de l'industrie. Les Wunderwaffe, c'est une autre idée là-dedans. Ils ont développé des avions à réaction quasiment avant tout le monde.
Donc, pardon, puis après je vous aurais plus. J'avais été frappé, moi, par l'introduction de Serge Lehmann à une anthologie, en 98.
Escale à
l'horizon. Oui, enfin bon, c'était sa thèse. Il montrait vraiment qu'à la fin de la guerre 14-18, la France avait été, quoique vainqueur, avait été écrasée en quelque sorte moralement. Il y avait un rejet de la science et de l'industrie. Il me semble que paradoxalement, c'est quelque chose, malgré les très lourdes conditions qui ont été imposées à l'Allemagne au traité de Versailles, on a l'impression que l'Allemagne s'est relevée de ça, en fait, alors que la France.
C'est souligné dans Nuremberg, à Nuremberg de Rossi, hein, c'est ça, ouais. Il souligne le fait qu'en 1939, les premiers de Saint-Cyr, les premiers de la promo de Saint-Cyr ont tous choisi le génie et l'administratif et le soutien aux troupes. Aucune unité combattante, en fait. C'était effectivement la conséquence, je pense, de ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on s'était retrouvé dans une France, effectivement, qui ne voulait plus se battre.
Certes, mais c'est ça qui a permis paradoxalement l'Amérique de gagner. Parce que quand on y regarde, pour un combattant, tu avais 9 mecs à l'arrière pour s'occuper finalement de sa santé, de son bien-être et ainsi de suite. Donc le tandis que l'Allemagne, ça a été un peu on avance qu'à un cas. C'est un chaos qui avance à pas cadencé.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et qui ne survit que parce qu'il ingurgite finalement et qu'il vit sur un territoire comme les légions romaines des pays qu'il a conquis. Et qui a fini par s'effondrer sur lui-même parce qu'il n'y avait plus rien. Comme tu le dis, effectivement, au niveau de l'Allemagne nazie et des pays conquis, ça valait un pouvoir moyenâgeux. Les seigneurs étaient pour vie et mort sur un séisme. Et le truc,
à l'Est, en tout cas, c'est.
Voilà, et on pillait surtout toutes les ressources pour les ramener en Allemagne. J'ai toujours le souvenir des Américains en pénétrant en Allemagne, ils disaient ils avaient l'eau courante, ils avaient l'électricité, ils avaient tes éléments. Ils sont arrivés dans les autres pays, ils étaient pauvres, il n'y avait pas grand-chose, les gens le regardaient d'un air peu amer. Et en Allemagne, on a l'impression que c'était plus propre et autre.
Les Russes aussi.
Les Russes ont énormément pillé en 1945.
Les Russes aussi. Quand ils sont arrivés
pourquoi ils nous ont-ils envahis alors qu'ils avaient tout ça?
Alors, ils arrivaient dans des maisons, ils ont des belles maisons, des meubles fantastiques de la... Moi, j'habite au fin fond de la Sibérie, j'ai une hutte, mais pourquoi ces gens se sont mis en guerre?
Oui, monsieur.
Est-ce qu'il ne s'agit pas un petit peu d'une vision anachronique de l'histoire? À ma connaissance, Joliot-Curie était le plus en avance dans l'armement nucléaire. En mai 40, nous produisions plus de chars, plus d'avions, plus de canons que les Allemands. Il nous a manqué 6 mois. La France était en retard, mais il y a certaines uchronies où, par exemple, le combat ne s'arrête pas en juin 40. Il continue de côté de la Méditerranée. Les Allemands ont été complètement incapables de franchir la Méditerranée. Alors, aujourd'hui, on a une vision, la France défaite en quelques semaines, mais par exemple, quand on regarde les statistiques, la promenade de santé, c'est en juin 41 en Russie que ça s'est passé. Quand on compare les 6 premières semaines en Russie avec les 6 premières semaines en France, c'est en France qu'ils ont perdu la moitié de leurs chars, la quasi-totalité de leurs... Ben, ils ont failli perdre les Allemands en 40, hein. Ça s'est joué. Aujourd'hui, on dit que ça a été une promenade de santé, mais quand on regarde les faits, ce n'était pas le cas. On a une vision aujourd'hui déformée et les textes qu'on a aujourd'hui donnent une vision déformée, mais il y a même certaines uchronies qui invitent à penser le
contraire. Alors, il y a 1940, la France, si la France avait continué la guerre qui a été lancée par Jacques Sapir, enfin, on peut savoir si nous aurons jamais la fin, c'est toujours une question.
Il y a
une version BD, je les ai mis en relation avec des cours. Les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Et c'est toujours un poil plus compliqué. En fait, techniquement, on a perdu la guerre entre 1918 et 1920. À partir du moment où on a déclaré
On est tombé, nous aussi, dans le mythe de la propagande. À partir du moment où on s'est dit on peut construire une immense muraille, la ligne Maginot, et se réfugier derrière, ce qui empêchera justement une attaque, c'est devenu, je dirais, à la fois un élément de propagande, et les militaires ont fini par y croire. L'autre souci, c'est qu'on a maintenu très longtemps, par rapport aux Allemands, des chefs militaires qui ont atteint un âge canonique, je crois qu'il est inutile que je cite le nom du maréchal Pétain, qui avait une vision effectivement très passéiste de la guerre. Alors maintenant, vous m'excuserez, mais passer de l'autre côté de la Méditerranée, moi je veux bien, bon déjà, techniquement on n'avait pas besoin, l'armée allemande s'est très vite essoufflée en France, mais, parce qu'il y a toujours un mais, partant du principe qu'on a ouvert énormément de villes, ça a permis à l'armée allemande de foncer d'autant plus vite. Et vu que le but, ça a été aussi de commencer à ouvrir des négociations sans même trop en parler au pouvoir politique à l'époque, c'est-à-dire que Pétain a commencé à négocier finalement au moment où il était en train de destituer justement, enfin de prendre le pouvoir, il n'y a pas d'autre mot. Une partie de l'armée française, une petite partie, était quand même relativement contente d'arrêter, parce que pour eux, ils ne voyaient pas trop l'intérêt. Le problème de ce type du chronique, j'adore, c'est qu'on enchaîne les scies, comme les perles sur un collier, et on ne sait jamais où ça va nous mener. Alors oui, on produisait plus de chars, mais on parle de chars qui avaient été conçus dans les années 20. Alors la dernière version du B1, le B1 Terre, qu'on a tenté de faire parvenir en Algérie, qui a coulé, etc., a servi de plan, tout du moins, au futur Sherman. Vu qu'on a Renault est allé construire une usine à New York, on a ramené les plans du futur G1 qui ont servi finalement de base aux armées américaines. La forme était exactement la même, et ainsi de suite. Si vous voulez, les autres pays ont appris nos erreurs. La production nucléaire, oui, on était super en avance. Même chose pour les Anglais, mais c'est uniquement parce qu'ensuite, une bonne partie des savants, qui plus est des savants juifs, parce que n'oubliez pas que pour les Allemands, finalement, c'était là où il y avait un problème, sont allés en Amérique et qu'on a réussi à s'entraîner de ça, qu'on a pu développer une arme nucléaire. Le type américain en parle très très bien. L'arme nucléaire, il n'y a que les Américains pour pouvoir la faire. Vous imaginez pas.
Absolument, c'est ce que j'allais dire. Je rebondis sur ce que vous disiez sur Joliot-Curie parce que c'est fondamental et je m'en sers beaucoup dans mes romans. C'est-à-dire que Joliot, effectivement, c'est lui qui crée le truc, peut-être le premier, encore que ça se joue à chaque fois plutôt sur des semaines et des mois plutôt que des années, hein, entre les uns et les autres qui se tirent la bourre de chaque côté de l'Atlantique. Mais Joliot-Curie, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que le nerf de la guerre, dès cette époque et même encore un petit peu avant, c'est l'argent. C'est-à-dire que la clé, effectivement, c'est sans doute 1918. C'est-à-dire qu'à partir de 1918, s'il y a bien un fait qui est indéniable, c'est que l'argent, il s'est déplacé. Et l'argent, il est où? Il est aux États-Unis. Et il va y rester. Et tout est là, en fait. C'est-à-dire que Joliot, il a les meilleures idées, mais, entre guillemets, il n'a pas l'argent pour aller au bout. C'est son pays qui n'a pas l'argent. C'est les Américains qui vont avoir suffisamment d'argent à mettre sur la table pour développer le projet Manhattan et les projets de bombes A et de bombes H. Et c'est ça qui fait la différence. Et je dirais, sur la vision géopolitique globale qu'on doit avoir des 19e et 20e siècles, il faut bien se rendre compte qu'on a un glissement qui s'opère depuis la guerre de sécession. Ce glissement, il date de là, et tout découle de cette époque-là. La guerre de sécession, vous avez les pays européens qui sont les premiers pays du monde. On peut discuter longuement de savoir est-ce que c'est la France, est-ce que c'est l'Allemagne, la Russie ou l'Angleterre, et qui est le numéro un. J'ai envie de dire, peu importe, en tout cas, ils pensent tous sans doute à un moment donné, et à raison, que ce sont eux les numéro un. Et ils considèrent toujours les États-Unis comme une donnée négligeable, hein, de gentils colons qui se sont installés là-bas de l'autre côté de l'Atlantique. Quand les Américains font leur guerre civile, les Européens vont penser ça sans doute encore un peu plus fort, notamment Napoléon III, qui va partir faire la guerre au Mexique pendant la guerre de sécession, en espérant créer au Mexique un empire catholique qui ferait le contrepoids aux États-Unis qui sont donc protestants. La guerre de sécession, elle va mettre fin aux ambitions de Napoléon III au Mexique, Tout simplement parce que le Nord, quand il va gagner contre le Sud, il va se tourner vers Napoléon III, qui est donc au Mexique, et on va lui dire, t'es gentil maintenant, mais tu rentres chez toi. Parce que, grosso modo, nous maintenant, on a fait notre unité, on a sauvé l'union des États-Unis. Maintenant, t'es gentil, mais tu rentres chez toi. La sphère d'influence américaine, c'est nous. Amérique du Nord, Amérique du Sud. Donc tout découle de cette guerre de sécession et de ce basculement et d'une espèce de, comment on va dire ça, de volonté en fait, des Européens de ne pas voir qu'il y a un État-continent qui va finir avec 300 et quelques millions d'habitants qui est en train de les manger tout cru sans qu'ils s'en aperçoivent. Et les discours de 14-18 et les discours de 39-45 tournent tous autour d'une idée. Hitler, quelque part, il veut créer un bloc qui puisse être, qui puisse pouvoir s'opposer aux Américains. C'est ça l'idée centrale du truc. C'est faire une grande Europe, une grande Allemagne qui pourrait s'opposer à qui? Mais à qui, finalement?
Dans le film de Tardy, là, Avril, le point tournant pour lui, c'est plutôt la guerre de 1970. C'est rigolo parce que c'est la guerre de 1970 qui voit vraiment l'éveil de l'Allemagne d'un point de vue non seulement économique,
alors,
mais aussi sur une victoire militaire à la base.
Tout à fait.
Au départ, c'est la France qui est la puissance économique, la puissance industrielle, la puissance financière.
Alors, 1870, parce que j'ai aussi écrit des livres là-dessus, 1870, le truc, c'est que c'est effectivement le point de départ d'une certaine pensée. Cette pensée, c'est celle de 14. C'est celle de 14-18 et celle de 39-45 pour ces
personnes. Tu m'excuses, hein ?
Pardon ?
Oui, non, c'est pas que je vais vous foutre à la porte, c'est que je propose plutôt que vous continuez ce truc-là en allant. Moi, je devais ressentir le débat, parce que la question du monsieur, quand même, m'intéresse. C'est, justement, on parle souvent de Seconde Guerre mondiale, où on montre, bah, soit l'Allemagne nazie survit, dépasse 44, 45, 46, et ainsi de suite, soit gagné, comme le maître du Haut-Château... de Philippe Cadic, qui a finalement initié une longue lignée de rejetons aux premières lignes. Mais, comme le dit monsieur, on a très très peu du chronique, finalement, réfléchissant à une France qui tient le coup, ou qui décide de continuer le combat depuis ses colonies, ou une Angleterre qui finalement s'engage beaucoup plus massivement, ou ainsi de suite. Vous, à ce niveau-là, vous avez tous les trois une explication par rapport à ce type de facteur. Est-ce qu'on, déjà c'est quasiment même la conclusion, est-ce qu'à travers des uchronies par rapport sur la Seconde Guerre mondiale, on ne joue pas à se faire peur? Et on ne joue pas justement à mettre en scène le mal, je dirais, mais vraiment avec un grand M et sans E, absolu, en montrant qu'à un moment, bah, on peut créer une idéologie mauvaise qui va pervertir finalement telle une espèce de maladie et gangrener littéralement une nation. Qui va quand même trouver pas mal, j'allais dire, de points d'achoppement dans diverses nations. Avec l'antisémitisme, quoi qu'on en dise, a été relativement bien intégré, que ça soit pas seulement l'Italie, mais en France, en Angleterre, ainsi de suite. Il y a pas mal de gens qui ont essayé de le discours nucléaire, c'est normal.
Quand tu vois la conférence d'Évian en 1938, où les pays se réunissent pour essayer de régler d'une manière ou d'une autre le problème des Juifs, c'est-à-dire qui va prendre qui pour les sauver au départ des Allemands. Et en fait, c'est qui va se débrouiller pour prendre personne. Toute la conférence, finalement, se termine dans un bourbier et où tous les Juifs sortent les grands perdants, parce qu'en fait, tous ces pays qui se présentaient comme... finalement, ils ne veulent pas en prendre. Et des pays comme les États-Unis qui mettent des quotas, je crois, à 3 000 juifs, un truc comme ça, un pic de la taille des
États-Unis. Il y a une uchronie là-dessus qui était parue, qui est assez le club des policiers yiddish. C'est un sénateur américain qui a imposé un certain quota, et l'auteur Michael Chabon imagine qu'il meurt dans un accident de voiture avant de pouvoir proposer quoi que ce soit. Résultat, en fait, il n'y a pas d'histoire de quota, donc une bonne partie des juifs émigre massivement vers l'Alaska, qui devient finalement une énorme colonie juive, et où une bonne partie de ceux-ci, finalement, échappe à l'Holocauste. Et ça reconfigure même, je dirais, la Seconde Guerre mondiale. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. On a peu du chronique, finalement, je pourrais qualifier de véritablement optimiste, où nos démocraties tiennent coup, où, je dirais, bombe le torse, où les capacités de tenir, pourquoi pas, développe la bombe atomique en commun et ainsi de suite.
L'Uchronie, c'est pas un genre qui est très optimiste. Hein,
non,
non, non, non, non. Si on regarde les vraies Uchronies, avec l'Uchronie un peu steampunk, et tout ça, c'est différent. Mais finalement, quand on fait l'Uchronie, c'est souvent pour voir les trucs qui vont virer encore plus en autre boudin que ça aurait pu être. Mais c'est un genre, sans que ça soit présenté, c'est un genre qui est extrêmement. C'est comme le polar, en fait, c'est comme le polar. Et maintenant, d'ailleurs, il y a des polars uchroniques. Comme les bouquins de Joe Walton, des gens comme ça, ou Dominion, ou qui sont du espionnage uchronique, l'uchronie commence à attaquer aussi d'autres genres. D'autres genres qui commencent à s'intégrer en se disant, bah, tiens, oui, et s'il se passait ça, qu'est-ce que serait une enquête policière, par exemple, dans une Angleterre sous influence nazie, ou avec les policiers anglais impliqués dedans mais c'est toujours du truc noir. On n'est pas là pour rigoler. C'est vrai que c'est un genre noir.
Excusez-moi, mais pourquoi ne parle-t-on pas de dyschronie
On a inventé le terme, mais on l'utilise très peu. En fait, on n'est pas dans la même logique que l'utopie, je crois, qui arrive.
On peut utiliser le terme. On utilise rarement le terme dyschronie pour des uchronies dystopiques, ça c'est sûr. Mais moi je vois pas où l'intérêt d'aller caractériser, de recouper une étiquette d'une étiquette. Comme l'a dit justement mon voisin de gauche, l'uchronie est transmédia, transgenre. Alors, on la retrouve au cinéma, on la retrouve en BD, on la retrouve en littérature, on la retrouve dans des essais. On va la retrouver donc sur des supports, sur des genres différents. On va la retrouver dans des thrillers, on va retrouver Fatherland, on va retrouver effectivement la trilogie des
romans
du Walter, on va trouver des essais, on va trouver des essais de stratégie militaire, on va trouver un tas de choses. À un moment donné, on utilise l'uchronie parce que le terme a été posé par un oublié, etc. Donc on va continuer à l'utiliser. Les anglo-saxons n'utilisent absolument pas, ils utilisent l'histoire alternative, alternative history. Le principal, c'est qu'on ait au moins une idée du procédé. C'est-à-dire, je prends un point de divergence, je réécris une histoire, mon histoire, la petite histoire, l'histoire personnelle, je mets mon point de regard, soit près du point de divergence, soit très très loin, et je vois ce qui se passe. Et je suis dans la spéculation, dans le motif, dans un outil de compréhension, de réflexion, de philosophie éventuellement. Mais après, on peut poser 250 étiquettes, hein, on peut y aller. Ça n'aurait jamais qu'un étiquetage et pour trouver en fait les points de repère là-dessus. Quoi. Mais l'uchronie, tout comme l'utopie, hein, on dit toujours l'utopie. Ben, je suis désolée, quand on lit des utopies, il y a rarement une utopie qui soit réellement une vraie utopie. C'est-à-dire qu'elle tourne tout de suite dans une dystopie. Et pour ça, on appelle ça une utopie.
À la rigueur, j'ai deux exemples. Dans le jeu vidéo, vous avez Wolfenstein The New Order qui a viré complètement uchronique en imaginant une Allemagne nazie qui a gagné la guerre. Et je situe dans des années 60 en montrant des mégalopoles bétonnées absolument horribles et en partant, je dirais, comme le fait si bien mon camarade de gauche, dans des délires raciaux complètement absurdes pour nous. Alors qu'à l'époque, je dirais, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça, partant du principe qu'ils le subissaient. Et au niveau des utopies, dystopies, je dirais, il y a un autre jeu vidéo qui joue très bien, c'est BioShock. C'est une série qui se termine avec BioShock Infinite, où on part justement sur une utopie, c'est-à-dire des villes fantastiques qu'on construit soit au fin fond de l'océan, soit qui flottent dans les ciels. Et quand on arrive, bah, c'est pas joli joli. On tombe sur le racisme, on tombe sur le pouvoir, on tombe sur des types qui se programment guide éclairé et qui estiment qu'il y a des élus, et puis les autres, ma foi, s'ils brûlent en enfer, c'est pas bien grave. Donc, je dirais pour nous, ouais, il n'y a pas d'intérêt à rajouter d'étiquette. Déjà, quand vous voyez le terme uchronie qui apparaît petit à petit un peu partout, ça, quelque part, c'est la plus belle victoire qu'on puisse avoir. Parce qu'auparavant, quand vous en parliez, une de mes vagues favorites, c'était dit qu'est-ce que l'uchronie, c'est du passé de là. Ça ne paraît à personne.
Vous parlez des what if, effectivement, chez les historiens américains, le what if, notamment en histoire militaire, c'est entre guillemets une science. on va même pas mettre de guillemets, c'est une science. Et chez nous, excusez-moi, là je vais mettre des guillemets, mais c'est un peu provocateur, mais c'est ça. Pour les historiens français, le what-if, c'est sale, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que c'est pas une science, c'est pas sérieux, c'est du divertissement.
C'est Carrère qui le met dans son essai, ouais. le what-if tel qu'on le construit en France, les spéculations autour de l'histoire, c'est du divertissement. Voilà. Aux États-Unis, c'est une discipline, ouais. C'est enseigné dans les universités. C'est une méthode d'enseignement, en fait. C'est une méthode spéculative.
Et ça part souvent avec le retour de la guerre civile américaine. Voilà. Ça les a tellement marqués, je pense, que ça fait ça.
C'est le point
où il y a le plus de...
C'est le tournant.
Si ça s'était passé comme ça, en histoire militaire, la guerre...
Le maître du Haut-Château, cette scission des États-Unis, c'est le cauchemar de la guerre de sécession. C'est si notre pays, il s'était effectivement coupé en deux ou en trois, qu'est-ce qu'on serait devenu?
Voire en 28, avec une nation désrette, mormone...
Ouais, à l'époque, la frontière de l'Ouest, elle n'existait pas, hein, en fait. La façade Ouest, elle aurait pu très bien revenir au Mexique, hein, pour le coup, à l'époque. Et justement, le Nord et le Sud étant devenant deux entités complètement distinctes, après ça laissait le champ ouvert
Resté indépendant à un moment.
Oui, c'est autant de choses qui...
Donc ça, je pense que ça les touche, c'est cette...
On en revient à ce qu'on disait, ça fait peur,
ouais, tout à fait.
C'est noir, c'est finalement, il y a peu d'espoir.
Oui.
Et on joue vraiment, mais... Moi, je dirais enfin, on fait nos Tarantino, quoi, finalement. On gratte un peu.
On gratte.
Ouais, ok. Y a-t-il des... Oui, il y a une question.
Soit un peu plus positif. Est-ce qu'il y a des uchronies sur plutôt la fin de la guerre, par exemple, Patton qui continue en direction de Moscou, ou Staline...
C'est pas un mentiste.
Staline qui continue en direction de Tokyo.
Oui, ça existe en anglais. J'allais dire... déjà, on a encore du mal à cerner la fin de la guerre. Moi, je lis pas mal d'essais sur la conquête du Japon. Ça a été un petit dada américain, mais pareil, c'est minime. Sur les bombes ne marchent pas, on envahit. La montagne de feu, toi, tu connais directement, vu que tu l'as édité, si je dis pas de bêtises.
Non, je l'ai lu.
Tu l'as lu? le test de la bombe échoue. Ouais. Et pour le coup, les Américains lancent l'opération Coronet qui était prévue pour envahir le Japon. Et ça se termine littéralement dans un bain de sang. C'est un de leurs dadas, justement. Pour eux, la perspective uchronique, c'est vraiment, on joue pour montrer d'un point de vue pédagogique, vous nous embêtez entre guillemets régulièrement avec les deux bombes atomiques, mais au moins ça nous a évité des centaines de milliers de morts. Pour la petite histoire, mais là on est vraiment sur le côté geek militaire, on a frappé, je crois, tellement de médailles de blessés, la première, le fameux Palpa-Hert, pour l'invasion du Japon, qu'on continue à les utiliser encore de nos jours. Ça vous donne un peu, au niveau de l'armée américaine, que ce soit au niveau de l'Afghanistan, ça vous donne un peu une vague idée, je dirais, du nombre de pertes qu'ils prévoyaient simplement en débarquant sur les plages. Pour Patton, non. C'est vrai que les uchronies, j'allais dire, militaires, on continue la guerre, on sert un point, etc., c'est typiquement américain. Nous, on était bien contents que ça s'arrête en 45. Même eux, ils le reconnaissent. Oui, monsieur ?
Dans la collection Economica, maintenant, il y a de plus en plus d'uchronies.
Tout à fait. Ça, on revient finalement à un type d'uchronie qui existait dans les années 50, 60, 70. Oui, monsieur ?
Et le rapport
de l'uchronie avec Régis Messac ? Alors, Messac a fait une uchronie à propos d'un utopien en 1936 que je qualifierais relativement d'anarchiste. Partant du principe qui met un peu tout le monde dans le même sac, en partant dans mes souvenirs, la France perd la guerre en 1918, et une bonne partie de l'intelligentsia et des têtes dirigeantes fuit en Angleterre, et ensuite il dépeint, je crois, une situation pour le moins catastrophique. Je vous avouerai que je l'ai lu il y a fort longtemps, donc j'ai un peu oublié, mais par contre... Pascal,
est-ce que c'est pas une anti
Je le qualifierais plutôt d'anticipation. Ensuite, tout dépend de la table de péremption de la bête. Oui ?
C'est une remarque et une question.
Oui ?
Ma remarque, c'était pour dire qu'il y a quand même Anthony René, historien et
Fabrice Almeida, oui.
Qui a fait Essai en fait de l'histoire, qui est peut-être qui est le plus proche en francophone du Watif.
Tout à fait. Et votre question ?
Ma question, c'était Est-ce qu'il n'y a quand même pas aussi une tradition, même si minoritaire, de l'Uchronie et de l'utopie positive autour d'auteurs comme Ursula K. Le Guin ou Kim Stanley Robinson? Je pense notamment pour Kim Stanley Robinson à Les années de Riesel, qui ne sont pas forcément une Uchronie positive, mais qui ne sont pas une Uchronie négative.
Alors, injustement traduit par Chronique des années noires, alors que effectivement, le mot noir n'a rien à faire dans le titre, parce que c'est très sombre, et qui rebalaye toute l'histoire de l'Europe sans aucunement prendre un point de vue, c'est-à-dire sans juger du bien ou du mal de cette histoire, hein, de sa valeur. Et effectivement, il nous refait toute l'histoire de l'Europe à partir de la veste noire du Moyen-Âge qui éradique, 95% de la population européenne. Et donc le monde se refait sans nous. Mais la théorie de Kim Stanley Robinson, c'est que l'histoire, la trame historique, elle est d'une certaine façon immuable. C'est-à-dire qu'on va se retrouver quand même avec la découverte de l'Amérique, même si ce n'est pas Christophe Colomb, on va se retrouver quand même avec deux guerres mondiales, etc. etc. Il y a une trame historique. Ça fait partie d'une théorie qui dit que l'histoire, en gros, est immuable, même si les gens qui la font ne sont pas les mêmes là-dessus. Mais il n'y a pas de jugement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement positif ou négatif, c'est pas une utopie ou une dystopie, effectivement.
C'est un peu comme La Porte des Mondes de Robert Silberg, là, quand on en aventure. Une dernière question, on arrête, parce que là, je crois qu'ils vont commencer à dresser le bûcher.
Oui, une uchronie positive aussi, c'est pour ceux qui connaissent le site alternatehistory.com, il y a pas mal de textes qui sont publiés. Et une qui, pour l'instant, a beaucoup d'attention, c'est Es gelobe Reich. En gros, l'empereur Guillaume II d'Allemagne meurt très jeune et est remplacé. Donc l'histoire va se développer un peu différemment à la fin du 19e. On arrive à une première guerre mondiale qui n'est pas aussi générale, la France ne va pas être impliquée, et les juifs victimes de pogroms en Russie vont s'allier à ces Allemands éclairés pour créer une nouvelle nation dans une Pologne qui change complètement d'image et qui va devenir un État largement juif, mais pas uniquement, parce qu'il y a quand même les Polonais, je vais dire, non hébraïques. Et donc on a là une uchronie qui passe par des passages extrêmement sombres, l'auteur écrit ça très bien, mais il y a des passages très sombres, mais avec quand même une image d'espoir qui est reçue par le lectorat, parce que justement, c'est le principe du forum, les gens commentent au fur et à mesure de la rédaction.
Et ça influe sur la
rédaction. Et tous mentionnent cette idée que même dans les passages les plus sombres, l'usage des gaz de combat, etc., il y a toujours une lueur d'espoir derrière ce récit. Et donc l'aspect négatif, eh bien non, il y a moyen de trouver l'espoir, même au cœur des ténèbres.
Ça sera le mot de la fin. Il y a toujours de l'espoir au fin fond de l'Uchronie. Maintenant, nous allons libérer la place. Merci à toutes et à tous.